Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, semaine confinée, première semaine confinée. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, bah ça y est, on est de retour à la maison.
Voilà, de retour à la maison. Oh là là, notre invité, on va évidemment y revenir avec ce côté assez erratique de ce reconfinement, avec beaucoup de protestations, en particulier, vous l'avez vu tout le week-end, du côté des librairies. On va en parler justement avec notre invité, c'est Jules. Bonjour Jules. Ah, Jules n'est pas encore arrivé, il sera avec nous dans un petit instant. Jules qui signe les nouvelles aventures de Lucky Luke, un cow-boy dans le coton. On va parler avec lui évidemment de la fermeture des librairies, évidemment des caricatures, bref, beaucoup de sujets à voir avec lui. La question du jour,
Jules. Justement, Valérie, puisqu'on parle de la fermeture des librairies et du non-accès aux livres, eh bien, est-ce que vous pensez qu'il faut réouvrir les librairies? Est-ce que vous pensez que c'est un achat essentiel pour notre mental et notre culture, Valérie? Alors, vous êtes évidemment déjà nombreux à répondre. Beaucoup, beaucoup de votes, Valérie, oui. sur cette thématique. Oui à 89%, oui à 89% pour l'ouverture des librairies. Et donc, voilà. Même si il y a CL qui nous dit qu'il doute que 89% des Français lisent et fréquentent les petites librairies. Bravo. Absolument. Pour votre
c'est
sondage.
Vrai. C'est vrai. Mais... C'est vrai que beaucoup de gens ont fait cette remarque en disant c'est dingue tous ces gens qui se mobilisent pour les librairies. Si on pouvait vendre autant de livres que ça, ce serait formidable. Mais bon, écoutez, on va suivre. Vous pouvez voter sur le Twitter de Sud Radio. On n'a pas retrouvé Jules pour l'instant, mais il ne devrait pas tarder à arriver. On va passer au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, pour commencer, des images, mais surtout du bruit, celui de la fête. Alors, évidemment, ce bruit fait scandale sur les réseaux sociaux, car il y a des gens qui font la fête en plein confinement, mais ce n'est pas n'importe qui, Valérie. Ce sont des étudiants de l'école de police de Nîmes. Écoutez. Oui. Bravo la police.
Ouais. Il y a eu beaucoup de réactions de policiers qui étaient outrés par ce qui s'est passé.
Et oui, puis sans masque et sans geste barrière. Depuis jeudi minuit, Valérie, c'est donc le confinement. Et depuis, c'est la razzia dans les supermarchés de Marseille, comme le racontait La Provence.
Dans ce supermarché, les rayons de pâtes, conserves, pain de mie, papier toilette ou encore farine se vident petit à petit. Pour autant, ce n'est pas la panique observée lors du premier confinement.
Ne sachant pas ce qui nous attend. Donc oui, on a prévu légèrement un petit peu plus. Les rayons sont presque vides, tout ce qui est pâte, tout ce qui est farine, tous les produits de première nécessité sont vides.
Il y a trop de monde.
On a vu des rayons totalement dévalisés alors que les grandes surfaces ont bien précisé qu'il n'y aurait pas de problème. Allez.
Hier, Xavier Bertrand est revenu sur les attentats qui ont donc frappé la France. Il était face à un Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. Et pour lui, il faut arrêter de minimiser ses actes.
Tous ces attentats, ce ne sont pas des faits divers sanglants. Ce ne sont pas des faits divers atroces.
C'est le fruit d'une stratégie.
C'est une stratégie. C'est une stratégie qui vise clairement à nous impressionner, à nous faire peur, à nous faire renoncer à ce que nous sommes, mais aussi à provoquer. La bascule.
Mais est-ce que vous pensez que ça peut les...
provoquer la bascule de tous ces Français musulmans en leur disant la République, la France, elle ne veut pas de vous, alors rejoignez-nous. Et il faut faire très attention.
Ce matin a eu lieu la minute de silence en hommage.
Non, va avoir lieu. Ça va.
A eu lieu, c'était à 8h.
Oui, c'est à 8h.
Oui, madame, 8h30.
Bon, pardon.
En début de classe. A eu lieu ou aura lieu la minute de silence en hommage au professeur. Vous n'avez pas changé, même avec le confinement.
Non,
vous êtes toujours là, tapis
pas
dans
du
l'ombre.
Tout. Absolument.
Au professeur d'histoire assassiné Samuel Paty. En revanche, on ne peut pas dire que le silence se fait dans les pays arabes. BFM les a relatés.
Un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron, frappé, brûlé par les manifestants. Le président français est devenu la cible des Bangladais après avoir défendu la liberté de caricaturer Mahomet.
Ils ont allumé un feu dans le cœur de 2 milliards de musulmans en se moquant du grand prophète Allah.
Mêmes images au Pakistan. Une poupée du président français pendue. Le drapeau tricolore brûlé.
Ils ont fait une caricature du prophète Mahomet qui est intolérable. Le gouvernement pakistanais doit agir avec courage et tuer tous ceux qui se moquent de lui.
Voilà, ça s'appelle un appel au meurtre, donc. Autre son différent, celui de Chimène Badi. Samedi soir, elle était chez Laurent Ruquier et elle s'exprimait sur ses attentats, mais surtout sur sa religion à elle, la religion musulmane.
À partir du moment où je prends la parole et que je m'exprime sur un sujet aussi sensible en disant que non, ce n'est pas notre religion, que non, je ne suis pas d'accord avec ça et que non, je continuerai à le dire et que oui, je fais partie de ces femmes de confession musulmane qui montent sur scène, qui portent des décolletés, qui chantent l'amour et je me battrai à continuer à être comme ça et à le dire parce que je pense que c'est hyper important en fait et face à cette folie, parce que c'est de la folie, c'est de la sauvagerie, c'est de la barbarie, ça me rend dingue et j'ai juste envie de dire stop quoi.
Voilà, ça a été évidemment très relayé sur les réseaux sociaux. Pour finir, alors Valérie, un petit peu de sourire hein, dans ce monde un peu compliqué que nous vivons, un peu de télé-réalité, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de la télé-réalité dans le zapping. Alors c'est Quotidien qui a repéré cette question essentielle que deux personnes en rendez-vous se sont posées.
On pourrait parler de tout et de rien pendant des heures, on a toujours quelque chose à dire. Et je trouve que c'est super important.
C'est quoi ta plus longue relation?
Alors sans être concu ou en étant concu?
Un peu des deux.
Voilà. Mais c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même durée de relation.
Voilà, on se retrouve dans avec notre invité Jules. Je pensais que vous m'auriez mis un petit extrait de Gérard Collard chez Laurent Ruquier qui poussait un coup de gueule contre la fermeture des librairies, mais on va en reparler avec Jules dans un tout petit instant et on va également parler du nouveau Lucky Luke. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Jules. Bonjour Jules.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur, faut-il le rappeler? On vous retrouve, on vous avait déjà reçu d'ailleurs pour parler de 50 nuances de grec tous les soirs sur Arte vers 20h40. On vous reçoit à l'occasion de la parution des nouvelles aventures de Lucky Luke que vous avez co-signé avec HD. Et évidemment, Lucky Luke d'après Maurice, évidemment. Et celui-ci s'intitule Un cow-boy dans le coton. Un Lucky Luke un petit peu différent, on va y revenir, mais évidemment... pour commencer, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question à propos de la fermeture des librairies. Déjà, dans un premier temps, vous avez annoncé que vous démissionniez. En fait, tous ceux qui étaient marraines et parrains de l'année de la bande dessinée 2020, vous avez décidé, devant l'incohérence et la contradiction des choix politiques à l'égard de la culture, de démissionner de ses responsabilités. Vous n'avez pas compris, vous non plus, qu'on ferme les librairies?
Oui, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même tous arc-boutés dans la même direction qui est de freiner cette pandémie. Donc je pense que tout le monde a vraiment conscience de l'importance de faire attention, de respecter les gestes barrières. Et en fait, le fait de ne pas décréter les livres et les librairies comme commerce essentiel sous prétexte que ce serait des lieux de contamination nous a paru complètement incohérent. C'est-à-dire que si le but était de freiner l'épidémie, la fermeture de ces petits commerces très scrupuleux hein, en termes de règles sanitaires et par contre très très important en termes de morale de la nation, en termes de partage, ces choses-là nous ont paru suffisamment floues pour qu'on s'insurge. J'en espère vraiment que voilà, ça va être reconsidéré. On a quelques semaines devant nous. Voilà, ça vaudrait vraiment le coup que les gens qui prennent les décisions soient un petit peu moins technocratiques et juste fassent appel à un bon sens le plus élémentaire.
Oui. Ce matin, un professeur de médecine a répondu à un libraire, c'était sur une chaîne info, et lui a dit mais monsieur, le confinement, c'est pas pour faire du shopping.
Oui, non, mais en fait, les gens ont quand même pas mal de culot, c'est-à-dire que c'est complètement à géométrie variable. C'est-à-dire la raison, la science, en fait, a les dimensions qui arrangent chaque interlocuteur. C'est-à-dire que, en fin de compte, je pense qu'il y a un tout petit peu de rationnel, c'est-à-dire que un endroit fermé où on est plein, où on reste longtemps, c'est sûr qu'on se contamine beaucoup plus qu'un commerce où on fait très attention, où on passe, on ressort et on peut établir un protocole très très strict. Donc, ouais. Ça sert à rien parce qu'on a peur de cette épidémie, de charger une catégorie professionnelle particulière d'accuser telle ou telle personne. En fait, je pense que le degré d'agressivité et d'accusation envers des gens est proportionnel finalement à la peur qu'on a soi-même. Et je dirais le désarroi des pouvoirs publics induit ces espèces de comportements irrationnels de mettre du scotch dans un supermarché à l'endroit où il y a des livres pour empêcher
les
l'accès, alors qu'on peut se ruer au rayon tournevis.
Ouais, les images étaient assez sidérantes, effectivement, de voir ces sacs poubelles mis sur des rayons livres. Pourquoi les livres et pas les appareils à raclette ou les tournevis, comme vous le dites. Vous avez eu une réaction ou pas du ministère de la Culture, puisque cette année de la BD se tenait sous les auspices du ministère de la Culture?
Aucune réaction. On les a informés juste avant de notre décision. C'était un peu ridicule de continuer à faire un peu les marionnettes ambassadeurs de charme, ouais. Ferrero Roche d'Or, d'une année qui, de toute façon, avait été complètement impactée par cette crise. Tous les événements, toutes les choses qu'on espérait faire ont été annulées, comme beaucoup, beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Donc, on n'avait pas envie de servir de caution, alors que précisément, le slogan, c'était « La France aime la BD ». Clairement, ouais. Avec les décisions qui ont été prises, c'est le contraire qui est montré, hein.
Oui, alors évidemment, il y a les click and collect, il faut dire que les libraires s'organisent, mais encore une fois, comme le disent les libraires, ça ne va pas suffire à les sauver. Et ce que disait aussi une éditrice ce matin, c'est que ça représente assez peu finalement tout ce qui est vente par correspondance ou click and collect, ça représente assez peu du volume des livres, et encore une fois, c'est ce géant américain qui risque d'en profiter, même si les libraires, encore une fois, disent « appelez-nous, on a des sites », etc. Mais je crains que les injonctions du Premier ministre hier soir à dire « n'achetez pas sur cette plateforme américaine » soit assez peu suivi. Mais on en reparlera, nous, à 11h.
Mais justement, Valérie, moi, je voudrais demander à Jules, est-ce que vous pourriez dire ce matin « je ne veux pas que ma BD soit vendue sur Amazon » Est-ce que, pourquoi pas, les écrivains et autres ne diraient « moi, je ne veux pas que mon livre soit disponible sur les plateformes américaines » et comme ça oblige les gens à aller sur d'autres choses. Est-ce que vous seriez prêt à prendre un tel engagement?
Oh, c'est un peu une position de matamor, hein. C'est beaucoup de la com dans ces cas-là, parce que le vrai truc, c'est que le livre, c'est un écosystème. Il y a plein de façons de vendre des livres. Il y a les ventes à distance, les ventes par correspondance sur ces grandes plateformes, les grands espaces de vente, les hypermarchés. Pour une bande dessinée comme Lucky Luke, ça compte, parce que les Lucky Luke, ils sont vendus dans tous les points de vente. Par contre, il y a d'autres auteurs qui ne sont vendus que justement dans des petites surfaces de librairies, conseillés par des libraires, parce qu'ils n'ont pas la grande visibilité, parce que c'est des petites maisons d'édition. Et pour eux, c'est vital, en fait, d'avoir encore cette interface de librairie. Donc, non, c'est-à-dire que l'appel à boycott, a priori, d'Amazon ne me paraît pas pertinent. Il faut juste réussir à soutenir ce qu'on aime.
C'est ça. C'est que il y a eu une demande d'ouvrir les librairies et la réponse du gouvernement a été on va interdire la vente de livres en grande surface, ce qui était complètement absurde. Est-ce que
on parle beaucoup de la rentrée des classes là justement aujourd'hui. C'est vraiment le comportement de ces mauvais profs qu'on a tous eu, qu'on connaît tous. Il y a quelqu'un qui a fait une bêtise dans la classe, il y a toute la classe qui est punie en représailles. C'est vraiment une espèce de degré zéro de la pédagogie et c'est ce qui est quand même un peu désespérant, et pas seulement dans ce domaine-là, mais finalement dans les politiques publiques récemment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a affaire aux plus mauvais des plus mauvais profs qu'on ait pu avoir.
L'autre actualité, ce sont évidemment les conséquences des caricatures dans le monde musulman. Et là, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est au-delà des caricatures, c'est la liberté d'expression qui est en jeu. Quelle est votre position sur ce sujet? On voit Luc Ferry ce matin qui dit oui, peut-être qu'on n'est pas obligé de montrer les caricatures qui sont à la limite de la pornographie. Montrer des dessins, si c'est de la pornographie. Moi, cette déclaration m'a choqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jules?
Non, mais de facto, on est obligé de rien. Hein. Mais en fin de compte, de dire ça, c'est-à-dire de se défausser sur des espèces d'explications alambiquées, ce serait ceci, ce serait cela, on passe en permanence dans des chocs de subjectivité. Les gens pensent que c'est offensant, pensent que c'est de la pornographie ou pas. Bon, c'est irresponsable et déprimant que Luc Ferry, qui a été ministre de l'Éducation, en arrive là. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon d'enrober sa propre pusillanimité, sa propre trouille. C'est déprimant. Je pense que effectivement, le principe de fraternité, le principe de plaisir d'être ensemble, de prise en compte de l'altérité, il est capital. Donc effectivement, c'est important de maintenir un dialogue, d'écouter ce que les gens ont à dire, même quand les gens sont offusqués, même quand les gens se sentent insultés. Je pense que c'est très important de poursuivre le dialogue. En revanche, de poser comme principe ceci est possible, ceci n'est pas possible, et complètement à la carte, encore une fois, c'est pas ça la liberté d'expression. Il y a un principe global, et ensuite, juste avec le, encore une fois, une espèce de bon sens, de sens d'autrui, je pense que tout est possible. Les gens ont besoin d'être écoutés, et voilà, mais c'est. On est en train quand même de parler de gens qui vont décapiter des profs ou poignarder des gens dans la rue. On n'est pas en train de parler à fleur et mouchetée de ce qui est possible ou pas. Donc Luc Ferry, il faudrait qu'il la ferme.
Oui, vous avez été dessinateur voie Charlie Hebdo, très proche de tous ces dessinateurs, il y a longtemps. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est difficile, qu'il y a une autocensure qui va se faire de plus en plus, peut-être pas dans l'équipe de Charlie Hebdo, on l'a vu, mais que des dessinateurs peuvent aujourd'hui avoir peur?
Oui, ça, oui, bien sûr.
Parce qu'on a vu l'exemple de Philippe Geluck qui dit oui, on peut tout dessiner sauf ce qui touche à l'islam, alors qu'il l'a déjà fait par le passé. Donc c'est quoi? C'est une forme de trouille, d'autocensure qui se met en place?
Bah probablement. Je crois que si on l'observe, tout le monde peut à peu près le voir. Hein. Voilà, j'ai l'impression que les gens qui sont à Charlie Hebdo, ils ont une espèce de côté risque tout. Sont vraiment dans cette position de rien céder, de continuer à dessiner précisément ce qu'on leur demande de ne pas dessiner. À la fois, je comprends complètement les dessinateurs qui craignent des choses pour eux. Et voilà, c'est aussi très humain, quoi.
Alors, on va parler de votre album qui est lui aussi plus que d'une certaine manière qui est engagé puisque Lucky Luke revient donc avec ce nouvel album Un cow-boy dans le coton et cette fois Lucky Luke hérite d'une plantation et il va découvrir le problème de la ségrégation, du racisme. Donc c'est un album engagé.
Alors, en tout cas, c'est un album qui fait écho avec aujourd'hui. C'est-à-dire que on avait envie d'inventer une nouvelle histoire de Lucky Luke qui soit à la fois hyper marrante, où il y ait plein d'action, plein de suspense, parce que c'est ça le principe d'un Lucky Luke. Et puis que ce soit bien pour les enfants, bien pour leurs parents, pour leurs grands-parents, cette dimension comme ça très universelle de Lucky Luke, elle continue à fonctionner. C'est notre principe de départ. Et on s'est dit, si on allait l'envoyer en Louisiane, il n'est jamais allé dans cette région, ça va être beau à dessiner les marécages, avec le bayou, avec les crocodiles. Le dessin d'HD est incroyable dans cet album. Et il y a tout le côté, autant on emporte le vent, hyper romantique, des plantations, des grandes demeures, comme ça.
Les scènes de fête sont vraiment, c'est très très précis, très minutieux dans le dessin. Et c'est
voilà,
vraiment
c'est
tout,
Lucky Luke est une espèce de Scarlett O'Hara western, comme ça il arrive. Et forcément, quand on plonge dans ce monde-là, on voit aussi le revers de la médaille qui est la civilisation de l'esclavage. Et du coup, pour la première fois, on a mis en présence Lucky Luke et la communauté noire. Et ce qui était bizarre, ça faisait 72 ans que Lucky Luke sillonnait les États-Unis dans tous les sens sans jamais quasiment voir de noir, sans qu'il y ait de personnages noirs. Et c'était un énorme manque qui nous est apparu de manière frappante, même si j'y avais jamais pensé auparavant. Mais quand on a commencé à réfléchir à ça, on a vu en fait que ça manquait singulièrement et qu'on avait besoin d'évoquer ces questions. Et par hasard, 4 ans après, parce que ça fait 4 ans qu'on travaille sur cet album, l'album paraît au moment de l'élection américaine et en plein mouvement Black Lives Matter. Et surtout, parce que ça c'est une question américaine, mais en pleine interrogation chez nous en Europe sur toutes ces questions. La mémoire de l'esclavage, la représentation des Noirs, leur visibilité dans la culture. Et on a bien vu les questions des déboulonnages de statues, faut-il ou pas déboulonner les statues des personnes en lien avec la traite négrière, le fait de renommer le livre d'Agatha Christie, les diptyques nègres, déprogrammer, autant on emporte le vent. Ces questions-là, elles fracturent énormément notre société. Et du coup, je ne sais pas si c'est un album engagé, mais c'est un album qui fait écho avec plein de débats et peut-être une sortie vers le haut de cette espèce de fracture stérile dans laquelle on est en train de s'enterrer, de dire Lucky Luke a quelque chose à nous dire à tous les milieux sociaux, toutes les générations, et peut-être, justement, encore une fois, avec une humanité très simple, dire ce qu'on a en commun et ce qu'on a à dire sur ces questions, ça peut tous nous réunir, finalement.
Ouais.
Et vous savez ce qui m'a plu, moi, Valérie ? Alors, il y a deux choses qui m'ont plu. C'est les grands dessins, parce qu'il y a des pages avec des grands dessins qui sortent
des cases habituelles.
Et ça, on le voit rarement dans les BD. Il y a même une pleine page. Deux fois, il y a une pleine page. Et l'autre chose, c'est la dernière page qui m'a plu. Parce que dans la dernière page, vous expliquez que Bass Reeve est un des héros de la BD, pour ceux qui vont la lire. Et en fait, moi, je ne le connaissais pas. Ça a été, en fait, le premier Marshal noir qui a été adjoint à l'Ouest et shérif noir, et en fait c'est un vrai personnage. Comment vous avez eu connaissance du premier shérif noir des États-Unis? Il est né en 1838.
Bah oui, parce que moi au départ je voulais créer un personnage de fiction qui allait expliquer à Lucky Luke ce que c'était que le Sud, ce que c'était que le monde de l'esclavage, ce que c'était que la communauté noire, parce que comme Lucky Luke on avait besoin de quelqu'un qui nous serve un peu de guide, et je m'apprêtais à inventer un personnage, mais HD, le dessinateur de l'album, a trouvé ce vrai personnage, comme dans certains Lucky Luke, où voilà, on faisait appel à Billy the Kid, Calamity Jane, qui avaient réellement existé, et qui sont rentrés dans la fiction, quoi, et qui sont devenus des vrais personnages de chez Lucky Luke. De la même façon, ce Bass Reeves, qui a arrêté 3000 personnes dans toute sa carrière, qui lui, c'est incroyable son histoire. Il est né esclave, il s'est enfui, il a fait toute une carrière au Kansas, d'abord auprès des Indiens, puis il est devenu shérif. Et ce personnage-là, c'était comme un peu un Lucky Luke avant l'heure. Hein. Et il était très célèbre à son époque. Hollywood a raconté son histoire, mais en le blanchissant. Et on l'avait complètement oublié. Et voilà qu'il ressort un petit peu de l'oubli, comme vraiment le symbole de cette Amérique noire de l'Ouest. Mm. Parce qu'on a découvert aussi, en faisant ses recherches, qu'un cow-boy sur quatre était noir. Et presque tous les autres étaient hispaniques. C'est pas du tout la vision de John Wayne qu'on a l'habitude de connaître avec les films de Hollywood.
Comment vous avez travaillé avec HD? Parce que vous êtes dessinateur, HD est aussi dessinateur. Comment deux dessinateurs travaillent ensemble sur un album comme celui-là?
Je crois que c'est la marque de fabrique de notre association. C'est-à-dire que ça fait 3 albums maintenant qu'on a repris Lucky Luke ensemble. La série s'était un petit peu perdue à un certain moment. Les gens allaient moins vers Lucky Luke. C'était sans doute parce que il n'était pas forcément raconté par des gens qui viennent de la bande dessinée. Le fait que ce soit deux dessinateurs, un au scénario, l'autre au dessin, qui s'associent, ça permet d'avoir quelque chose qui est à la fois très, très fidèle au code inventé par Maurice et Goscinny, qui était un équilibre merveilleux. Moi, j'ai appris à lire dans Lucky Luke, et je crois que pourquoi ce personnage est aussi sympathique et patrimonial et aimé par tout le monde, c'est parce qu'il y avait cet équilibre-là, plein de références, de lectures. Et donc, avec HD... moi, j'écris des scénarios, des gags, mais je pense toujours en découpage, en graphique. Et HD, lui, à partir de mon scénario, réinvente, change des choses aussi. Mais on a cette complicité-là. Je ne vais pas lui faire faire des choses impossibles. Moi, j'ai un sens du rythme et du tempo qui est celui d'un dessinateur. Et lui, il a la vision vraiment de comment mettre en page et raconter les choses de la manière la plus rigolote. Ouais.
Et vous vous êtes imprégné des albums de Lucky Luke, parce que j'ai repéré, moi je suis une grande fan de Lucky Luke, j'ai repéré 2-3 références, en particulier quand Averell essaye de parler aux Acadiens, il dit quoi cupi, je sais plus quelle est la phrase, c'est quelque chose qui était dans un des albums de Lucky Luke.
Oui, il y a des petits clins d'œil pour les grands fans de Lucky Luke aussi, parce qu'il y a plein de références à des choses... Ouais. Voilà, historique ou culturel.
Et puis il y a les Dalton, surtout, on ne l'a pas dit, on retrouve les Dalton.
Oui, il y a les Dalton. Voilà. Mais il n'y a pas Rantanplan, Valérie.
Voilà, il n'y a pas Rantanplan, mais les Dalton, ils nous permettent de rigoler, en fait, parce que l'histoire des Noirs aux États-Unis, c'est quand même une histoire tragique, de l'esclavage, c'est quelque chose de cruel, de violent, donc on en parle forcément. Mais en même temps, les Dalton nous permettent, justement, parce qu'ils courent après Lucky Luke, ils veulent sa peau, ils veulent récupérer le magot. Et c'est eux qui nous permettent de rigoler tout le temps parce qu'ils comprennent rien. Effectivement, les Acadiens, les Cajuns, en fait, qui sont ces francophones des marais de Louisiane, les Dalton imaginent que ce sont des Mexicains, en fait, pendant tout le...
Ben voilà, c'est ça.
Quand ils voient le Ku Klux Klan avec ses chapeaux, ses cérémonies, les croix enflammées et tout, ils sont sûrs que le Ku Klux Klan, c'est une sorte de tribu indienne, un petit peu palichonne. Donc, ils comprennent rien. Et c'est vrai que donc Averell il s'adresse en pseudo mexicain aux Cajuns du Marais en disant quoi Mikiki,
et
clin d'œil à l'album Tortillas pour les Dalton.
Voilà, je me souvenais plus dans lequel c'était, mais je me souviens c'était, ça m'avait fait beaucoup rire.
Bah c'est un peu un truc culte, et puis aussi il y a plein de blagues, par exemple à un moment la plantation de coton est dévastée par un ouragan, et puis les employés noirs disent c'est pas grave, on va replanter, on a qu'à mettre du tabac. Et après, il dit, ah non, pas du tabac, il y a Lucky Luke qui a arrêté de fumer il y a longtemps déjà.
Oui, oui, ouais, il y a des petits clins d'œil et on rit. Oui, une dernière question. Et
moi, j'avais une dernière question, une question média, Jules. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez, comment vous réagissez à Laurent Ruquier qui a dit que vous étiez son pire chroniqueur et que vous n'avez été là que pour faire de la promotion. Je vous ai pas entendu répondre à ça, vous l'avez peut-être entendu.
Oui, on m'en a parlé, mais je trouve qu'il a complètement raison. Moi, je voulais pas du tout être chroniqueur. J'étais venu pour rendre service un jour, mais en fait, on avait un deal qui était que, OK, tu chroniques les invités, puis on fera la promo de ton album. Et en fait, c'est un deal qui n'avait pas du tout été tenu à l'époque. Et donc, en fait, j'étais furieux. C'était, voilà, dans les conditions du direct, l'enregistrement. Donc, je voyais que l'émission passait et qu'ils étaient pas du tout en train de parler de l'album. Alors que moi, je m'étais tapé de lire les livres de tous les invités et d'écouter leurs disques. Donc, en fait.
Le deal n'était pas respecté.
Non, mais c'était une incompréhension. Et je pense que Laurent Ruquier n'a pas eu toutes les informations concernant cet accord qui avait été passé avec la production. Mais c'est vrai que, bon, on sait bien tous que le monde de la télévision est pire que le Far West. Donc, c'est celui qui tire le plus vite.
Très bien. Juste, une auditrice nous dit qu'elle a 63 ans et qu'elle a été choquée par les dessins des caricatures qu'elle trouve pornographiques et qu'on montre pas ça à des enfants de 13-14 ans. Je voudrais juste lui rappeler que les enfants, je crois que c'est un enfant sur deux, ou enfin le chiffre est assez énorme d'enfants qui vont voir des films porno à partir de 10 ans. Donc, je pense que des dessins, des caricatures sont très très loin de ce qu'on peut appeler la pornographie.
Non mais en plus, ouais. Soyons choqués, elle a raison, une dame de 73 ans ou 61, je ne sais plus ce que vous...
63,
elle a raison d'être choquée, et elle a raison même de le dire, de vous téléphoner pour le dire, mais voilà.
On ne va pas tuer quelqu'un pour ça.
Point à la ligne et on continue. Le dessin, il est fait pour choquer d'ailleurs les personnes qui l'ont dessiné. Ils ont cherché à être le plus choquant possible, s'ils n'allaient pas choquer.
C'est le principe des caricatures.
Déçus. Voilà, donc qu'elle soit choquée, elle a raison, mais en même temps, il ne faut pas que ça induise le fait de d'être mise en danger et de plus pouvoir faire de pouvoir s'exprimer comme on veut.
Merci beaucoup, Jules. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Un cow-boy dans le coton, c'est le dernier album de Lucky Luke qui cartonne. Hein. Gérard Collard, notre libraire préféré, nous a dit qu'il partait comme des petits pains. Voilà, et en tout cas, ça permet de changer les idées. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Pardon. On se retrouve dans un tout petit instant avec un restaurateur. On n'a plus beaucoup parlé d'eux. C'est important de leur redonner la parole. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Sud Radio, on est avec vous jusqu'à 11h, jusqu'à midi d'ailleurs, et à 11h moins le quart, nous débattrons de l'actualité. Vous êtes nombreux ce matin à nous écouter et à avoir envie de réagir au 0826-300-300 à propos de la fermeture des petits commerces. On a beaucoup parlé des librairies. Moi, je voulais qu'on revienne sur la restauration, faire un point avec vous, Marcel Benezet. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à
tous. Vous êtes président de la branche des cafés, bars et brasseries du GNI Sinorca, oui. C'est le groupe national des indépendants. C'est vrai que on a pris pour acquis que les restaurants, les bars fermaient. Néanmoins, nombre de restaurateurs, de brasseries et autres cafés sont aujourd'hui dans une très grande difficulté. Dites-nous ce qu'il en est exactement.
La difficulté, comme vous l'avez dit, elle est là, elle est grande, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ils sont fermés déjà. Quelques-uns vont faire de la vente emportée, alors ça va être le patron et la patronne qui vont le faire avec un cuisinier, mais ça va pas nourrir son homme, comme on dit chez nous, hein, parce que ça va. On a le problème des loyers. Moi, je reviens souvent sur ce problème-là. Le problème des loyers court toujours. Il y a eu des reports de loyers, mais il faudra les payer. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de solution. Il y a le problème des 10% des congés payés de nos salariés. Certains salariés n'ont pas mis les pieds dans l'entreprise depuis 7 mois, et aujourd'hui, ils viennent réclamer leur congé payé. Donc, il y a eu le PGE, le prêt garanti par l'État, qui a servi, mais ce qui n'est jamais qu'un prêt qu'il faudra rembourser un jour, qui n'a servi qu'à payer des loyers, des congés payés, des abonnements, parce que vous avez les abonnements dans une entreprise, quand vous mettez la clé dans la serrure, qu'elle soit ouverte ou fermée, vous avez des frais qui courent en permanence, à savoir que nous avons ouvert nos établissements au mois de juin avec une capacité de 50%, ça veut dire que tous les jours, on ouvrait nos établissements sachant qu'on perdait de l'argent tous les jours. Donc aujourd'hui, la situation est intenable. Aujourd'hui, je crains que nous avons déjà certains petits établissements de grands chefs, tenus par des grands chefs de la bistronomie ou des chefs étoilés. Aujourd'hui, nous avons tué la gastronomie française. Parce que combien de temps pour se relever d'une situation pareille? Moi, je peux vous garantir que c'est pas une année. Il va falloir 3 années pour se redresser. Donc c'est pour ça qu'il faut agir vite sur le problème des loyers.
Alors qu'est-ce que l'État peut faire? Parce que on entend ici et là Bruno Le Maire qui dit mais les restaurateurs sont aidés. Alors il y a 10 000 euros, c'est ça, qui sont donnés dans le plan qui est proposé par le gouvernement. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport effectivement à des loyers et des établissements qui tournent avec plusieurs dizaines de salariés
et qui aujourd'hui ne tournent pas, qui sont fermés?
Oui, absolument, oui, oui.
Mais que vous avez des chefs d'entreprise qui ont acheté des maisons, qui ont des loyers, qui ont une famille à nourrir. Aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont dans un état psychologique. Moi, je les ai au téléphone en permanence. Je peux vous assurer que nous allons vers une catastrophe sanitaire qui sera plus forte que, à mon avis, le coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, et Dieu sait en France, je pense sur la région parisienne, mais en France, 60 000 commerces, tout commerce confondu. Vous avez l'habillement qui est touché, vous avez la restauration. N'en parlons pas, c'est une catastrophe.
Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui? Parce que vous comprenez bien que la situation sanitaire est quand même extrêmement grave. Quelqu'un disait, on n'a jamais eu. Enfin, la situation est beaucoup plus grave qu'au mois de mars, et pourtant on reconfine moins. Donc, comment arriver à concilier les deux?
Parce qu'aujourd'hui, il faut que les aides soient présentes. Aujourd'hui, nous avons les aides promises n'arrivent pas. Aujourd'hui, il faut qu'elles arrivent et très vite. Moi, je demande à Monsieur Bruno Le Maire de sortir le carnet de chèques et d'aider les entreprises. Sinon, elles vont couler. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont dans une telle incertitude de quoi va être fait demain que je vous assure, beaucoup ont rendu les clés. Vous avez des établissements qui ne réouvrent pas. Je pense qu'on va arriver à 40% d'établissements qui ne réouvrent pas les portes si le gouvernement ne fait pas quelque chose rapidement. Nous avons des rendez-vous en permanence, mais aujourd'hui, il faut aller très très vite parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour obtenir ces 10 000 euros de 10 000 euros, oui. C'est très difficile, les chefs d'entreprise, ça ne correspond pas. Donc aujourd'hui, il faut faire très très vite, parce que sinon ça va être vraiment un tsunami économique comme sans précédent. Nous sommes aujourd'hui sur une poudrière économique et je suis très inquiet.
Et on parle des petits restaurateurs, mais vous évoquiez tout à l'heure la gastronomie française, les grands restaurants, pour qui c'est également une catastrophe. On a tendance à dire oui, c'est de la gastronomie, ils ont beaucoup d'argent. Non, ce sont des gens qui sont surendettés, super endettés, qui ont un niveau de service énorme. Et eux, les 10 000 euros, pour eux, ça sert à rien, quoi. Ils ne sont pas riches. Il faut dire que les restaurateurs, faut pas s'imaginer qu'ils roulent tous sur l'or.
Mais surtout quand on parle des restaurants étoilés, ils étaient déjà sur le fil du rasoir parce que c'est en permanence des restaurants qui étaient très compliqués, une gestion très difficile. Ils avaient beaucoup emprunté pour refaire des restaurants. Il ne faut pas oublier qu'on avait quand même il y a un an une situation économique qui avait l'air de fonctionner, qui fonctionnait très bien. Le tourisme, il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, tout d'un coup, tout est passé à la trappe. Ce sont des gens qui sont endettés et qui ne s'en remettront pas. Ils ne s'en remettront pas. On a tué la gastronomie. Ouais. Il faut faire très vite.
Et donc vous attendez quoi, qu'on adapte les aides et qu'on donne en fonction des besoins, parce que c'est pareil les loyers, vous dites les loyers, mais sauf que les loyers ce sont souvent des loyers qui sont payés à des privés, à des propriétaires privés qui eux comptent sur ces revenus, donc c'est toute une chaîne qui aujourd'hui est en péril.
Il faut réactiver, moi je travaille dessus, il faut réactiver la commission des baux commerciaux, se mettre autour de la table, parce que c'est effectivement du droit privé, ce sont deux personnes responsables qui sont mises autour d'une table et qui ont signé un bail commercial. Aujourd'hui, il faut peut-être réouvrir, trouver une période transitoire de 3 années, parce qu'il faut pas croire, ça va durer 3 ans. Le propriétaire, si son établissement ferme, qui est propriétaire d'un bas d'immeuble, c'est un pied d'immeuble, et l'établissement va être fermé, il ne pense pas retrouver un client avant 3 ou 4 ans, peut-être voire plus. Aujourd'hui, moi, je vous assure que dans Paris, vous avez des endroits où les rideaux sont fermés, ne sont pas prêts de se réouvrir. Donc, il faut se mettre autour de la table, trouver des solutions. On peut les trouver, mais il faut s'adapter. Il faut que chacun y mette du sien, que ce soit les preneurs, les bailleurs et les preneurs. Hein. Il faut trouver une solution. Moi, je travaille dessus en ce moment pour trouver des solutions. C'est pas évident, parce que c'est du droit privé. Il va falloir qu'on ait besoin de l'État. Trouver une solution, un véhicule administratif et trouver une solution, parce que sinon on n'y arrivera pas. Ça va être une catastrophe.
Oui. Et donc, vous êtes en contact avec qui? Avec des représentants de l'État? Qu'est-ce qu'on vous répond? Parce que c'est la même chose pour les libraires et pour les petits commerces. C'est une sorte de fin de non-recevoir tout de même.
Tout à fait. On était encore reçu la semaine dernière et on a été reçu encore hier. Vendredi avec M. Bruno Le Maire, je peux vous assurer que la situation, on a l'impression de ne pas avancer. je crois qu'ils sont, des fois, je me dis, mais ils sont hors sol, ils ne se rendent pas compte de la situation. Pourtant, je connais bien M. Bruno Le Maire. On a eu les Gilets jaunes, mais qu'est-ce qu'on a eu depuis? On sort quand même depuis 5 ans de catastrophe sur catastrophe. Aujourd'hui, il n'y a pas de trésorerie. Je suis très inquiet du commerce national parce que c'est quand même tout le pays qui va être impacté, que ce soit du petit village de France ou même dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, ça va être terrible. Et derrière, tous les emplois, parce qu'aujourd'hui, nous représentons énormément d'emplois sur le tourisme. Ouais. C'est plus de 2 millions d'emplois directs, et indirects, ça peut représenter 3 millions. Vous avez une chaîne alimentaire, vous avez Rungis,
c'est ça,
vous avez
c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est ce qu'il faut évoquer. Les gens ont tendance à voir les serveurs, les chefs dans les restaurants, mais ça veut dire tous les producteurs, tous ceux à qui vous achetez des produits, qui aujourd'hui se retrouvent à ne plus avoir aucune vente. Écoutez, on prendra de vos nouvelles régulièrement. On a besoin de vous, de nos restaurateurs, et il y a les click and collect, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire commander et aller chercher dans les restaurants. C'est pas ça qui va vous sauver, mais ça aide tout de même à sortir un tout petit peu la tête de l'eau. Merci Marcel Benezet d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite pour commenter l'actualité, ce reconfinement pour le moins compliqué, et puis la minute d'hommage à Samuel Paty. À tout de suite.